7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. Nous parlons du logement avec nos invités Claire Lévy-Vroëlan, sociologue, et Eddie Jacquemart de la Confédération Nationale du Logement, qui est la principale association de locataires. Et puis vos témoignages, les voisins et les voisines, sur les prix, le marché du logement dans votre pays, que vous soyez locataire ou propriétaire. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Si vous travaillez dans une agence immobilière, bien sûr, du courage, appelez-nous aussi, toujours le même numéro de téléphone, 33 1 84 22 71 71. Alors en 2012, Londres était la ville la plus chère du monde. Cette année, Rio de Janeiro est entré dans le top 3, juste derrière Hong Kong, des villes les plus chères du monde. Justement, nous sommes en ligne avec notre correspondant au Brésil. Bonjour François Cardona.
Bonjour.
Le logement a toujours été d'ailleurs au cœur des préoccupations des Brésiliens. On se souvient du programme de logements sociaux qui avait été lancé par l'ancien président Lula, qui était destiné à offrir un appartement aux familles les plus défavorisées du pays, qui vivent bien souvent dans des favelas, donc les bidonvilles urbains. À Rio, aujourd'hui, l'immobilier flambe dans les quartiers riches de Rio, mais aussi dans les fameuses favelas qui deviennent tendance en quelque sorte. Alors ça, c'est tout de même assez curieux. Expliquez-nous, François.
Oui, des favelas qui deviennent à la mode, on ne compte plus hein, aujourd'hui. Les maisons en construction dans ces quartiers pauvres n'ont pas de petites baraques branlantes que l'on a l'habitude de voir pousser comme des champignons, mais des belles maisons avec terrasses, vues sur mer, car les favelas de Rio, qui sont souvent situées sur les hauteurs, sur les collines qui dominent la ville, et bien désormais, dans ces favelas, des Brésiliens des classes moyennes ou des étrangers résidant au Brésil s'y bousculent, ou presque, pour y dégoter un emplacement et y construire une maison.
Une maison avec vue sur mer. Donc cette tendance, François, c'est nouveau. Il n'y a pas si longtemps, les favelas de Rio avaient très mauvaise réputation et les Brésiliens n'osaient pas s'y aventurer. Alors qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, centre-ville réduit, manque de logements dans les zones résidentielles traditionnelles, début de bulle immobilière, même dû aux attentes en vue de la Coupe du Monde de foot de 2014, les JO de 2016, bref, les raisons sont nombreuses. Elles ont eu pour principale conséquence une flambée des prix de l'immobilier à Rio, dans certains quartiers comme les quartiers chics d'Ipanema, de Copacabana. Les loyers de ces cinq dernières années ont augmenté de plus de 300%, le prix du mètre carré à l'achat également, bien plus qu'à Sao Paulo, la capitale économique brésilienne. Pour avoir une idée, à Rio, par exemple, un appartement sur les toits avec terrasse et piscine dans le quartier très chic d'Ipanema va aujourd'hui coûter plus de 2 millions d'euros, soit 5 millions de reais au minimum, et un 3 pièces avec vue sur mer, 800 000 euros. Alors à cela, c'est ajouter une politique de pacification des favelas, réputée très dangereuse. Ces dernières années, elles ont été pacifiées, les favelas en tout cas qui étaient proches des quartiers chics.
Et cette stratégie d'occupation, François Cardona, de ces anciennes zones de non-droit, quel effet cela a sur l'immobilier et le logement globalement ?
Alors, ces bidonvilles ont été progressivement occupées par une nouvelle police de proximité qui en a chassé les trafiquants de drogue. Une quarantaine de favelas a bénéficié de cette politique. Eh bien, rapidement, la délinquance et le nombre de crimes a été réduit. Progressivement, ces favelas sont devenues fréquentables, rentables. Et donc, un nouveau visage de la favela est apparu et cela a aiguisé les appétits.
Et les riches brésiliens ont donc profité de cet engouement pour s'y installer ?
Alors, pour le moment, les riches brésiliens vraiment aisés qui vont y acheter une maison sont encore rares, ils ne sont pas vraiment nombreux. Ici, vous le savez, les préjugés ont la vie dure. Néanmoins, dans les favelas proches des quartiers chics, eh bien, ces favelas sont devenues la proie des Brésiliens qui n'avaient pas les moyens de s'acheter une maison dans une résidence privée, dont les prix ont explosé. Surtout, on y voit des étrangers qui profitent de l'engouement autour des favelas pour investir. Et surprise désormais, eh bien, 13% des habitants des quatre grandes favelas occupées par la police récemment à Rio, eh bien, appartiennent aux classes les plus aisées. C'était impensable il y a quelques années, d'autant que eh bien, ces aventuriers, considérés ici comme des bobos, des bourgeois bohèmes à la brésilienne, eh bien, continuent de fréquenter, dans la plus grande indifférence, souvent les familles les plus pauvres du pays, qui ne gagnent que 400 euros par mois, à peine plus que le salaire minimum, mais qui ont tout de même la vue sur la mer ici à Rio.
Voilà, c'est ce qui s'appelle réorganiser la mixité sociale, d'une certaine façon. Merci beaucoup François Cardona, correspondant de RFI à Rio de Janeiro. Claire Lévy-Vroëlan et Eddie Jacques. Marc, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, bah écoutez, c'est très intéressant justement. Je trouve que c'est cette question des acteurs. Bon, on est dans une globalisation, hein, donc la ville joue sur la carte prestige avec des stratégies concurrentielles pour gagner les Jeux Olympiques, par exemple. Là, l'exemple des Jeux Olympiques est vraiment très intéressant. Mais on voit aussi, comme le disait votre correspondant, qu'il y a une marge de manœuvre, c'est-à-dire que on n'est pas obligé de faire des actions de police de telle. Enfin, il y a des choix possibles. Hein. Je crois que là, il y a eu des
options. Mais la gentrification, comme on dit, alors, ou l'embourgeoisement, oui, mais c'est un bien ou un mal?
Mais ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que les acteurs s'engouffrent évidemment dans les stratégies qui sont possibles, que ce soit à Moscou, à Rio ou à Dakar ou même à Paris. Donc s'il y a une marge de manœuvre qui est possible, les acteurs vont s'y engouffrer. Mais je pense quand même que les responsables des décisions politiques au niveau local peuvent aussi faire en sorte que les choses tournent d'un côté ou d'un autre. Je vais vous donner l'exemple. On parlait tout à l'heure des transports. C'est vrai que on voit des exemples de villes qui ont eu les Jeux Olympiques, qui s'en sont emparées pour faire du transport intéressant, enfin pour développer un service public qui après va être durable. Ou alors on fait des opérations de prestige qui vont servir juste à effectivement lancer le mouvement de la gentrification pour quelques ménages riches et quelques investisseurs qui vont effectivement faire des profits énormes sans qu'il y ait de retombées après pour les locaux. Ouais. Et pareil pour ces grands investissements, quelle main-d'œuvre on emploie, etc. C'est toutes ces questions-là qui sont posées dans la ville globale.
L'immobilier de bureaux, par exemple, parce que là, au Brésil, bon, on sait que c'est un pays en pleine croissance économique. Est-ce que ça joue sur le prix des loyers pour le citoyen lambda
L'immobilier de bureaux, en fait, c'est un phénomène nouveau, notamment en France, c'est qu'il y a beaucoup de bureaux qui ne sont pas occupés et qui sont loués en logement précaire.
Oui, et pour cause, on est en récession économique. Mais alors du coup, là, ça a plutôt un bon effet pour le locataire, pour le citoyen lambda qui a besoin de se loger.
Ça répond à une pénurie d'accès au logement, mais c'est pas une réponse satisfaisante parce que les gens qui sont logés dans des bureaux sont logés dans des conditions précaires avec des salles de bain en commun, des salles de bain qui sont pas vraiment des salles de bain ou des cuisines un peu précaires. Et moi, je voudrais juste revenir sur ce que vit Rio aujourd'hui. On a vécu ça aussi chez nous, dans nos centres-villes. On a mis dehors les pauvres, et je vois notamment sur Lille, puisque je suis originaire de là-bas. Le vieux Lille était il y a 30 ans très populaire. On a chassé les classes moyennes, les classes populaires, pour y mettre les bobos. Et aujourd'hui,
c'est entièrement refait, c'est superbe.
Entièrement refait, des superbes lofts, des petites usines,
c'est
etc.
C'est cher, c'est même très cher. C'est très cher.
Mais est-ce que vous seriez pas d'accord avec moi pour dire quand même qu'il y a un peu deux types de gentrification, comme on dit, d'embourgeoisement, pour aller vite, que ce soit en France ou sous d'autres, dans d'autres continents? C'est on fait avec les habitants ou on fait contre les habitants? C'est-à-dire, on n'en tient pas du tout compte et on les expulse assez rapidement sans relogement? Ou alors, au contraire, on va faire avec eux? Et en particulier les femmes, parce que je voulais rajouter quand même que deux types des habitants des bidonvilles sont des femmes dans le monde. Sur les 890 millions de personnes.
Je suis d'accord avec vous, mais ce qui m'inquiète, c'est justement les gens des favelas, ils vont aller où, quoi, en fait? C'est ça qui m'inquiète. Donc, qu'on leur propose?
Toujours plus petit, toujours plus loin, voilà. Toujours plus cher. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous sommes en ligne avec un voisin malheureux, je pense. Tanguy est à Lausanne, en Suisse. Bonjour, Tanguy.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons. Madame. Je sais que Lausanne est une ville hors de prix.
Ah ben ça c'est sûr. Bah avec mon ami, nous sommes étudiants, et pour trouver en appartement tout près de Lausanne, on a dû attendre plus d'une année.
Oui.
Pour pouvoir trouver un logement. Et ce logement-là occupe les 45% de notre budget mensuel.
45% de votre budget mensuel,
oui,
passe dans le loyer.
Oui.
Où êtes-vous logé? Vous avez combien comme taille à peu près? Est-ce que c'est correct?
Oui, c'est correct. Pour deux personnes, on a deux pièces. Mm. Ça fait à peu près en 40 mètres carrés.
Avec un minimum de confort.
Pardon?
Avec un minimum de confort.
Oui, oui. Le confort, on l'a. En tout cas, comme j'ai dit, on est à deux, nous sommes bien. Mais le problème, c'est que dans 3 mois, nous avons être parents.
Et là, ça va effectivement, dans deux pièces, ça va être plus compliqué.
Oui, ça risque d'être un peu compliqué. Mmh. Et je pense que ça va de nouveau être le parcours du combattant pour pouvoir trouver quelque chose de correct.
Surtout si vous dépensez déjà 45% de votre budget pour vous loger. Bonne chance Tanguy, futur papa à Lausanne. Merci pour votre témoignage. Nous sommes en ligne avec Benjamin qui nous appelle de Dakar, une capitale africaine où les prix ont explosé de l'immobilier ces dernières années. Bonjour Benjamin.
Bonjour, vous allez bien?
Très
bonjour
bien. Les voisins. Benjamin, alors vous n'êtes pas encore papa, je pense, mais vous êtes un jeune marié.
Oui, fraîchement marié, le samedi passé.
C'est ça, fraîchement marié. Et alors, vous avez dit au standard que vous êtes vraiment en train d'organiser votre vie en fonction du logement. C'est très compliqué, là, votre vie. Expliquez-nous.
Trop compliqué, même. Je disais tout à l'heure au standard qu'ici à Dakar, vous savez que pour avoir trois pièces déjà, on peut dépenser plus de 150 000, voire 200 000 francs par mois. Déjà. Ça dépend des quartiers. Maintenant, si vous avez, par exemple, un salaire brut de 300 000, si vous dépensez les 150 000 par exemple ou bien les 200 000, vous voyez à peu près ce que vous reste pour avoir maintenant sans charge aussi, sans charge. Faut dire aussi que c'est sans charge.
C'est-à-dire qu'on peut se retrouver à dépenser les deux tiers de ses revenus en logement.
Carrément.
Carrément, oui. Et alors, vous êtes logé où, alors, Benjamin? Comment vous êtes organisé?
Ouais, moi, je suis actuellement avec des grandes sœurs ici à Dakar. Maintenant, elles travaillent ici à Dakar. Maintenant, elles donnent le plus souvent la moitié. Moi, je les aide en quelque sorte en contrepartie. Comme je ne loge pas tout le temps avec elles, parce que là, moi, actuellement, je suis à peu près combien? 150 voire 200 km de Dakar, parce que j'exerce mon profession là-bas, comme
c'est
professeur.
Ça. Alors, vous êtes logé, en fait, voilà. À moitié, vous avez un pied à Kaffrine, hein, c'est bien ça?
Bien, ça, oui.
À une centaine de kilomètres de Dakar. Et puis, vous êtes en colocation avec des filles de votre famille à Dakar.
Oui, c'est bien
ça. Et alors, comment allez-vous vous installer avec votre jeune épouse?
Ça sera l'objet de notre débat. On va voir après avec le temps. Mais c'est juste que je veux lancer un appel à nos gouvernants pour dire que simplement, l'heure n'est pas de dire que les logements sont chers ici à Dakar. L'heure c'est-à-dire qu'ils doivent nous aider en quelque sorte à avoir maintenant l'accessibilité au logement. C'est un cri de cœur que je lance aux autorités. J'espère au moins qu'il y aura une suite pour ma demande.
Ça veut dire que vous réclamez par exemple vous réclamez des blocages de loyers par exemple?
Pardon?
Vous réclamez que l'État contrôle le prix des loyers?
Effectivement, parce qu'il y a des caïmans, il y a des, comment on appelle ça encore, il y a des courtiers un peu partout qui gonflent les logements. Et il y a des personnes aussi qu'on donne les logements, qu'on applaudit par exemple, qu'on leur laisse le soin de louer en location par exemple, et ils sont pas sérieux, du tout sérieux.
Et aussi, merci Benjamin.
Les agences immobilières qui sont un peu actuellement, qui sortent un peu de terre, un peu par Dakar. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a absolument rien du tout.
Merci Benjamin pour ce témoignage. Je ne sais pas où vous êtes, mais c'est très très bruyant. Probablement à Dakar, une ville où le prix des loyers, des logements a explosé. Je voudrais aussi vous lire le témoignage. On parlait des transports, hein, parce que quand on a moins d'argent, il faut aller plus loin. Là, c'est le cas justement de Benjamin qui s'est éloigné à Kaffrine, à une centaine de kilomètres de la capitale sénégalaise. Également Saïf qui nous dit... Être locataire à Libreville, c'est simplement un calvaire. Les logements ici sont étroits. Pour un studio de 50 mètres carrés, vous pouvez dépenser à peu près 280 € en fonction du quartier. Et en périphérie, les prix, c'est vrai, sont relativement accessibles à tous. Mais le problème, c'est l'état des voiries qui rend la circulation difficile. Les politiques de transport ne répondent plus aux normes modernes. Et puis également le témoignage d'Iba Nouakchott en Mauritanie qui nous dit on peut choisir un quartier pour payer moins cher le loyer par rapport au centre-ville. Donc on s'éloigne, mais dans ces cas-là, ce sont les frais de taxi qui augmentent et vous pouvez finalement vous retrouver avec la même somme que vous versiez lorsque vous étiez en centre-ville. C'est un éternel débat. Qui veut réagir là-dessus?
Problème, c'est l'étalement urbain, en fait. Là, on est en train de parler de ça. On parle de l'étalement urbain, qu'on vit aussi chez nous, hein, bien évidemment en France. Et on parle du taux d'effort. Le taux d'effort qui, pour nous, à la CNL, devrait être de 25%. Le taux d'effort, c'est la charge logement par rapport au loyer. Hein. Donc, 25%,
ça serait le revenu global.
Oui, voilà. Par rapport à son...
Qui a énormément augmenté aussi en France.
On ne devrait pas dépenser plus du quart de ses revenus pour se loger.
Voilà.
Ça serait la norme.
Et dans ce cas-là, on n'aurait pas besoin de créer des fonds pour les expulsions. Hein. Voilà. Donc ça,
a perdu son travail. Là, on n'a plus de revenus. Donc, parce que c'est quand même ça aussi le fond du problème des expulsions. Hein. Souvent, il y a eu un accident de la vie. Quand on dit pudiquement accident de la vie, c'est le chômage aujourd'hui en France.
Oui, il n'y a pas que ça. Il y a
une rupture familiale, aussi quand même un décès accidentel. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent.
Un quart pour un quart en dépenses de logement, un quart de ses revenus. Quel pays a ce seuil finalement idyllique, un quart de ses revenus dépensés
en logement? C'est difficile de le dire en général parce que dans certains pays où la propriété privée est prônée comme ou d'ailleurs est le seul choix loisible pour les personnes et les ménages, ça peut être du plus de 50%. Enfin, et c'est justement une des source de l'endettement et des problèmes en chaîne qui s'ensuivent. Mais moi, je pense qu'il faut revenir peut-être aux questions d'inégalité. On voit vos interlocuteurs qui ont appelé là, donnent des exemples de villes où finalement il y a une dérégulation absolue, hein. Il y a un marché dans lequel d'ailleurs l'offre et la demande peinent à se rencontrer. Parce que c'est pas forcément une pénurie globale de logements. C'est simplement qu'avec tel besoin, à tel âge et tel revenu, je ne trouve pas ce qu'il me faut. Et c'est la même chose en région parisienne. Et cette question des jeunes, là, le jeune marié de Sénégalais, moi j'étudie un petit peu les questions d'hébergement chez un tiers. Ces jeunes qui ne trouvent pas leur place sur le marché du logement, ils vont passer toute une période qui a tendance à s'agrandir, enfin à se diluer dans le temps, intermédiaire où finalement ils vont favoriser la proximité, donc être au centre plutôt que d'aller très loin, et puis ils ne vont pas trouver non plus l'offre qui correspond à leur demande. Alors c'est vrai que c'est assez inquiétant, mais ceci dit, les acteurs trouvent des stratégies. Quand on regarde Moscou par exemple, ou les pays de l'Est, on voit bien que c'est pour ça que je parlais d'inégalité, les personnes finalement aujourd'hui bénéficient du statut, enfin quand ils peuvent, du statut qu'ils avaient avant la privatisation générale, c'est-à-dire ils ont pu finalement rester là où ils étaient, ça a été privatisé, ils ont pu changer, faire du troc, etc. Mais ceux qui n'ont pas
à Moscou,
pu
on a quand même une flambée de l'immobilier aussi.
On
colossale.
A une flambée de l'immobilier, mais il y a des stratégies d'acteurs qui se mettent en place. Mais quand il n'y a pas de régulation, il y a no hope. Il n'y a pas d'espoir pour que les choses se mettent en place de façon plus intéressante.
Alors, quelle solution, justement? Quel rôle devraient jouer les États? Vous nous appelez, les voisins, les voisines, pour nous parler de votre situation. Et puis, on va aussi parler des solutions. 33 1 84 22 71 71.
Milliards de voisins, c'est sur RFI.
For cover. Lover chez 7 milliards de voisins, Lee Perry. Vous écoutez RFI, nous parlons de la crise du logement, ou plutôt de la flambée des prix de l'immobilier, même si on parle toujours de la flambée des prix de l'immobilier, mais enfin en France, ça s'est quand même bien stabilisé, voire c'est à la baisse pour le prix au mètre carré pour l'achat et pour la location. Eddy Jacquemart, vous confirmez que, en tout cas, ça n'augmente plus le prix à la location réellement.
Ça ne monte plus par palier, ça augmente chaque année.
Oui, il faut dire que ça avait tellement augmenté entre, grosso modo, 1997-2007, là, ça avait doublé, triplé, c'est ça. On est en ligne avec un voisin qui nous appelle de Port-Gentil au Gabon, au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Karl.
Bonjour.
Vous habitez dans la ville pétrolière gabonaise, nous vous écoutons.
Oui, j'habite dans la ville pétrolière gabonaise. Bon, écoutez, je viens faire ma part un peu, témoignage, parce que j'ai constaté que c'est un phénomène mondial. Pour avoir un peu voyagé, j'ai été étudiant au Sénégal pendant 5 ans, j'ai eu le temps de voir les loyers basiques qui pouvaient être à 60 000 quand on pouvait louer une maison, deux chambres, salon, cuisine, douche et tout, de passer ses loyers de 60 000 à 150 000 en moins d'une année.
Ah oui.
Avec la demande, l'afflux des étudiants, et ça, c'était seulement en 2001-2002. Alors, j'ai des frères qui sont encore au Sénégal et qui disent que ça n'arrête pas d'augmenter. Récemment, j'étais en Afrique du Sud où j'ai une sœur qui fait des études, mais pour avoir un appartement, chambre, salon, cuisine, vous avez l'équivalent de 200 000 francs CFA, et elle me disait encore que chaque année, le loyer augmente de 10% systématiquement.
Là, vous parlez de Johannesburg ou du Cap ?
Non, de Cape Town, du Cap. Voilà, et donc, et pour revenir à cette belle ville du pétrole qu'est Port-Gentil, pour peu qu'un propriétaire se retrouve avec l'opportunité de mettre en location une maison, sa première prière, c'est soit de tomber sur un directeur d'entreprise ou encore quelqu'un qui a le loyer payé par l'entreprise faire flamber le prix de sa maison.
C'est le règne du marché. Merci Karl pour ce témoignage. Je voudrais qu'on ait quand même un mot de conclusion pour nos invités, Claire Lévy-Groëlan et puis Eddy Jacquemart. Alors finalement, quelles seraient les solutions ? Construire ou bloquer les prix ?
Construire et du logement social. Il faut que l'État se réinvestisse en forme de régulateur des prix du marché. Et je pense que la solution, c'est que l'État redevienne en fait le régulateur, tant sur la mise à disposition donc de logements sociaux et de qualité, et avec des prix abordables, tout simplement.
Alors sur les nécessités de construire, personne n'est d'accord sur les chiffres. On sait qu'il manque énormément de logements.
Alors moi, je répéterai ce que... je pense que c'est une question d'inadéquation entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de pénurie, sauf peut-être dans les centres des grandes villes.
En Ile-de-France aussi.
En Ile-de-France, oui. En même temps, il y a, je ne sais pas combien de centaines de milliers, je n'ai pas le chiffre là exact, de logements vacants. C'est aussi très important. Je pense qu'il y a un problème de manque de choix. On a quand même ce modèle de propriété qui bloque un petit peu les choses, et je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut réguler de manière un peu plus collective, disons, la redistribution
et aussi et redonner la place à l'habitant, parce qu'on parlait tout à l'heure, on a été vite sur les favelas. Je pense que là aussi, les habitants, les locataires, ils ont aussi leur mot à dire, et je pense qu'ils doivent aussi s'organiser autour des projets d'urbanisme, et il faut qu'on leur donne leur place.
Il y a tout un pan d'investissement qui peut être pensé en dehors de la construction, sur la réhabilitation. Si on veut faire des villes durables, il faut faire des logements durables, y compris avec l'existant.
Alors, ceci dit, bloquer les prix, il y a eu des tentatives, il y a déjà, il y a plus ou moins des textes qui permettent de bloquer, enfin, oui, les prix sont plus ou moins bloqués, les loyers.
Alors, nous, on était un peu déçus parce qu'on aurait voulu que récemment, il y ait un vrai blocage des loyers.
Avec le décret du flot.
Voilà, le décret du flot. Pour nous, c'est trop petit, la fenêtre est trop petite. Et en fait, les prix des loyers, un exemple simple.
On peut pas doubler le prix de son appartement que l'on met sur le marché locatif, comme là, ce voisin nous le racontait pour Dakar.
Oui, mais les prix sont libres. Si vraiment vous avez une zone tendue, le propriétaire privé peut faire ce qu'il veut. Mais déjà, par exemple, les loyers en HLM ont augmenté au 1er janvier de 2,15%. C'est déjà trop, et on pense qu'il faut à un moment donné stopper. Il faut qu'il y ait un blocage des loyers, vraiment, dans ce pays.
Vous y croyez, Claire Lévy-Vroëlan ?
J'y crois. Enfin, oui, il y a eu des périodes où les loyers ont été bloqués. Je pense en effet que c'est une solution, mais j'étais en train de penser
en vous écoutant,
oui, à court terme, bien sûr, le plus vite possible. Mais j'étais en train de penser en vous écoutant que la question dépasse celle du coût. C'est la question du taux d'effort, c'est-à-dire que quand on a des revenus qui sont émiettés, qui sont précaires, qui sont incertains, il faut que la collectivité prévoie des filets de sécurité. Enfin, ça a été possible à un moment dans un contexte de croissance. Ça l'est aujourd'hui. À condition de repenser une redistribution équitable des richesses, puisque au fond, toutes ces grandes villes dont on parle là, on a parlé beaucoup de grandes villes mondiales, sont des villes riches, sont des villes qui offrent des opportunités énormes aux gens qui viennent, aux migrants qui viennent de 100 km ou de l'autre bout du monde.
C'est bien pour ça qu'on accepte d'être logé toujours plus petitement. Hein, voilà. Les familles boîtes à chaussures dans
absolument.
Le centre de Paris, par
en
exemple.
En même temps, cette richesse-là, pourquoi elle n'est pas redistribuée d'une manière un peu plus satisfaisante, d'une part, et puis d'autre part, est-ce que nos modèles d'habitat, est-ce qu'on a vraiment besoin de deux voitures et de deux machines à laver par logement?
Ça dépend où vous habitez, en zone rurale, oui.
Oui, bien sûr, mais alors, ou même dans certaines banlieues reculées. C'est pour ça que la question des connexions et des transports est vitale, comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure.
On a beaucoup parlé des locataires, mais plus de la moitié des Français sont plutôt propriétaires. Hein. Enfin, on est à peu près à 50-50. Hein.
Oui, sans qu'il y ait toujours le choix. Hein. Je pense qu'il y a des régions dans lesquelles, au fond, ou comme vous disiez tout à l'heure, un jeune qui arrive, il se dit, mais au fond, au lieu de dépenser 1000 euros pour un studio ou un deux pièces, je vais investir. Donc, il y a quelque part quelque chose comme d'une imposition, finalement, d'un modèle d'habitat qui est compliqué parce qu'il entraîne des effets pervers.
Alors, propriétaire, on peut être propriétaire sur le papier et être en fait locataire de sa banque, hein, c'est souvent le cas.
Avec des emprunts remboursés. Merci à tous les deux. Claire Lévy-Vrouëlan, sociologue. Je voudrais tout de même donner le titre de votre dernier livre, Hôtel meublé à Paris, enquête sur une mémoire de l'immigration aux éditions Créafis Éditions. Merci beaucoup, Eddie Jacquemart, de la Confédération nationale du logement. Et demain, 7 milliards de voisins, nous parlerons des plats tout préparés, alors que les doutes assaillent les consommateurs après les scandales dans l'agroalimentaire. Faut-il revenir à une alimentation plus simple? Est-ce compatible avec notre mode de vie urbain et pressé? À demain.